Chapitre 36. Le plus dur avait été de tromper le flair des chiens. L'étang sauvage au beau milieu de la forêt, cerné de roseaux et de buissons, y avait contribué. L'homme au chapeau était entré le premier dans l'eau, sans marquer la moindre hésitation, malgré la fraîcheur nocturne, les nénuphars et la vase. Talonné par les aboiements, Edmé et Paul l'avaient suivi. Ils avaient perdu pied et réussi à gagner les roseaux à la nage juste avant que les molosses ne déboulent sur la berge. Les rayons des lampes s'étaient croisés au-dessus d'eux. Ils étaient restés un moment la tête sous l'eau, la sortant furtivement entre les nénuphars pour prendre une brève inspiration. Protégés par l'épaisseur des tiges, frigorifiés, ils avaient attendu que les poursuivants s'éloignent. Paul avait aussitôt voulu quitter son inconfortable abri. L'homme au chapeau l'avait retenu par le bras. Les poursuivants avaient disposé deux sentinelles, une de chaque côté de l'étang, trahies par les extrémités rougeoyantes de leurs cigarettes. Le chapeau alourdi avait glissé et coulé. La très faible clarté avait révélé sa chevelure brune et frisée, ses traits marqués, ses yeux luisants, son teint mat. Il avait brandi un poignard et, d'un geste, avait indiqué aux deux flics qu'il s'occuperait de l'homme sur sa droite. Edmé lui avait répondu, par signe également, que Paul et lui se chargeraient de l'autre. Il ne disposait pas d'armes à feu ni d'armes blanches. Il fallait l'étrangler à main nue. Edmé doutait d'en avoir la force. Le visage de Sylvaine, le souvenir de son baiser, l'avait alors traversé. Elle était revenue de l'autre rive. Elle lui donnerait un peu de son courage, de sa détermination. Il s'était avancé avec une lenteur crispante au travers des roseaux. Paul derrière lui, se figeant à chaque fois qu'il entendait un craquement, se glissant hors de l'eau avec les mêmes précautions. Par chance, l'homme pissait 5 mètres plus loin, avec de petits soupirs de satisfaction. Edmé s'était approché de lui à pas de loup, sans même vérifier que Paul le suivait. Il avait dénoué sa cravate et bondi sur l'homme au moment où celui-ci refermait sa braguette. Il lui avait glissé la lanière de tissu autour du cou et avait serré de toutes ses forces, tout en lui enfonçant son genou dans les reins. L'autre avait tenté de se débattre, d'appeler à l'aide, mais seul un gargouillement étouffé s'était échappé de sa gorge. Edmé avait serré, serré, jusqu'à ce que sa proie fléchisse et s'affaisse. Il n'avait pas commis l'erreur de la relâcher trop tôt. Il avait continué de l'étrangler, muscles tendus, tempes bourdonnantes. « Arrête le miso !» avait soufflé Paul dans son dos. « Tu vois bien que ce gouillard est mort !» Edmé s'était presque affalé sur le cadavre, exténué, les jambes en coton, le souffle coupé. L'homme qui les avait délivrés les avait rejoints quelques instants plus tard, poignard en main. « Je crois que le mieux est de retourner du côté de la maison et de trouver une planque dans les bâtiments. » avait-il lancé à voix basse. Ils ne songeront pas à nous chercher de ce côté-là. On se débarrasse des cadavres d'abord. Vous êtes qui exactement ? Avait demandé Paul. Pas le moment. Ils avaient traîné les deux corps sur la berge, les avaient balancés à l'eau lestée de pierre, puis avaient repris le chemin de la maison, tandis qu'au loin retentissaient les aboiements des chiens et les glapissements des poursuivants. Contournant les systèmes d'alarme, il leur avait été facile de s'introduire dans la propriété désertée. Ils avaient choisi pour planque une annexe abandonnée et imprégnée d'une tenace odeur de mouton. La porte s'était ouverte sans résistance. « Expliquez-moi pourquoi on est revenu se fourrer dans la gueule du loup !» marmonna Paul. « On aurait pu piquer une bagnole et... » L'homme brun l'interrompit d'un geste du bras. « Poulcan, si tu veux. Moi, j'ai encore affaire dans le coin. Ils ne m'ont pas repéré. J'attends seulement que mes vêtements sèchent. Aucune chance avec une bagnole, ils ont bouclé les sorties. Le mieux est d'attendre que la surveillance se relâche. « Je suis Ahmed. » Edmé lui serra la main. « Vous travaillez pour quel service ?»« Services spéciaux. J'ai enfreint les ordres pour vous ouvrir la cage. On m'a interdit de prendre des risques là-haut. On est sur l'affaire depuis plus de 10 ans. « Des noyés de la Marne ?» demanda Paul. « Oh, ça. Seulement un truc annexe. Dommages collatéraux, comme on dit. »« Quelle affaire ?» insista Edmé. « Je peux seulement vous dire qu'on essaie de récupérer une invention révolutionnaire qui intéresse beaucoup de monde. Tout le monde, en fait. » Pourquoi avoir attendu 10 ans? Fallait qu'elle soit parfaitement au point. Elle l'est? Ahmed se frotta le haut du nez avec le pouce et l'index. Vu le nombre de vautours qui essaient de l'acheter ou de la faucher, on peut répondre par l'affirmative. On veut à tout prix là-haut qu'elle reste propriété française. C'est quoi cette invention? Je n'ai pas le droit de vous répondre. Vous n'aviez pas non plus le droit de nous délivrer. Un sourire flotta sur les lèvres d'Ahmed. Un écart ou une insubordination par mois, c'est ma règle. Je vais me faire allumer, mais il n'était pas question de laisser deux collègues se faire découper en petits morceaux par ces fêlés. Merci pour le coup de main, en tout cas. Le gouvernement, s'il veut tant contrôler cette invention, il pourrait la récupérer en force, non? Le gouvernement? Quel gouvernement? Il est divisé en plusieurs groupes d'influence dont les intérêts sont totalement divergents, y compris dans l'armée. Les gens qui contrôlent l'invention sont infiltrés dans toutes les sphères, gouvernementales, européennes, militaires, policières, scientifiques, médiatiques. Eux se foutent pas mal de l'intérêt national. Ahmed s'interrompit, alerté par un crissement. Il garda le silence un moment, les yeux braqués sur l'obscurité, attentif au bruit qui bousculait le silence nocturne, aboiement, voix, grondement de moteur. « Ils comptent sur leur invention pour consolider leur gouvernement occulte, » reprit-il à voix basse. « Qui sont-ils ? » « Une sorte de fraternité secrète. » « Leur invention, c'est une nouvelle arme ?» Ahmed retourna un regard à la fois pénétrant et amusé à Edmé. « Vous êtes têtu, vous. Ne cherchez pas, c'est un truc auquel vous ne pourriez même pas penser. » Edmé comprit qu'il n'en tirerait pas davantage. « Qu'est-ce qu'on fait en attendant ?»« Vous restez là. Personne ne vient jamais ici. » « Vous ne bougez pas le petit doigt jusqu'à ce que je vous fasse signe. Moi, je retourne me jeter dans la fournaise. Vos vêtements sont couverts de boue. Comme quelqu'un qui a couru la nuit dans une forêt. Je fais partie de l'armée privée embauchée par les propriétaires de l'invention. J'aurais dû normalement vous courir après avec les autres, mais comme c'est moi qui vous ai ouvert la porte... » Ahmed lâcha un petit rire aigu. « Vous êtes de quelle origine ? » demanda Paul. « Française, comme toi mon pote. Breton même, je suis né à Pontivy. » Je voulais dire, tes parents. Française aussi. Enfin, ils étaient français jusqu'à la guerre d'Algérie. Ils le sont restés en choisissant la France à la fin de la guerre. Sûrement pas ce qu'ils ont fait de mieux. C'était ça ou finir égorgé ou baisé par le nouveau pouvoir. Bon, mes fringues sont à peu près sèches. Pas de conneries, hein. Ne bougez pas de là jusqu'à ce que je revienne vous voir. Je ne vous ai pas sorti de votre cage pour que vous vous lanciez dans une opération suicide. Les chiens ne vont pas nous repérer ? S'inquiéta Edmé. Peu de chance, votre odeur ne passe pas à travers les murs. Et puis, c'est une ancienne bergerie ici. Elle n'est plus utilisée, mais elle continue de puer le mouton à plein nez. Ahmed se dirigea vers la porte. Vous tiendrez le coup encore un petit moment sans manger ni boire ? Edmé avait répondu d'un hochement de tête. Ce qui me manque le plus, c'est une bonne cigarette. J'en fumerai une à ta santé. Ahmed était sorti et avait refermé la porte derrière lui. Qu'est-ce qu'on fait, le miso ? Le grondement d'une voiture et des éclats de voix les avaient tirés quelques instants plus tôt de leur torpeur. Ils s'étaient assis sur le sol de terre battue, jonché de brins de paille et adossé au mur. Les premières lueurs de l'aube se glissaient entre les tuiles et les interstices de la porte. « On attend, » répondit Edmé à voix basse. « Il tarde à revenir, le... »«
Le quoi ? » ?»«
Enfin, l'arabe. Il n'est pas arabe, mais français musulman. » Edmé se reconnaissait dans la réaction de Paul. Il avait lui-même glissé sans s'en rendre compte dans ce racisme ordinaire, rampant, qui refusait de dire son nom. Il avait lui-même pensé, par commodité, par paresse, que tous les malheurs actuels du monde étaient dus aux populations musulmanes, de France ou d'ailleurs, assimilées au fanatisme. C'était avant. Avant d'être enfermé avec Sylvaine dans les sous-sols du pavillon de Nogent, avant de redécouvrir l'enchantement vénéneux de l'amour, avant de prendre conscience que les malheurs du monde étaient seulement le fait de cœurs desséchés. Un paradoxe, mais peut-être n'était-il qu'apparent, voulait qu'il donne la mort au moment même où il revenait à la vie. Lui qui n'avait jamais égratigné personne au cours de ses 27 ans de carrière, il avait dû tuer 5 hommes en quelques jours. Il ne s'en désolait plus, la vie n'allait pas sans la mort. À chaque instant, des lumières s'éteignaient pendant que d'autres s'allumaient. Parfois, on enflammait la mèche, et parfois, on mouchait les chandelles. « Il nous a dit d'attendre, et c'est exactement ce qu'on va faire, » reprit Edmé. « Combien de temps, soupira Paul, ça me rend dingue !»« Tu devrais parler moins fort et apprendre la patience, Paul. Si Ahmed ne t'avait pas empêché de sortir trop tôt de l'étang, tu te serais jeté comme un con dans la gueule du loup. » « Assez avec tes leçons de morale, putain !»« Rien à voir avec la morale. Il s'agit de survie. » Le jour naissant éclairait les pierres, les poutres et le sol couverts de brins de paille de l'ancienne bergerie. Révélait également le visage hâve de Paul, ses yeux sombres, sa barbe de plus en plus épaisse, ses vêtements encore humides et tire-bouchonnés, ses chaussures maculées de boue. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. L'attente pesait également à Edmé, cette sensation de n'avoir aucune prise sur les événements. Mais l'action, il l'avait constaté à maintes reprises, l'action désespérée surtout, n'était souvent qu'une façon de tromper l'impatience, une illusion. Qui pouvait se vanter d'exercer le moindre contrôle sur le destin? Il se contraignait à l'inertie en demeurant dans la pensée de Sylvaine, en l'imaginant dans sa chambre d'hôpital, en lui murmurant les mots tendres qu'il n'avait jamais dit à d'autres. Se reverrait-il un jour? Qu'est-ce que la trame avait décidé pour eux? Des bruits de pas et de voix se rapprochaient de temps à autre de la bergerie, exacerbant la tension des deux flics. Sans armes, ils ne pourraient opposer qu'une résistance symbolique aux membres de l'armée privée dont avait parlé Ahmed. La main de Paul se posait sur une grosse pierre aux arêtes tranchantes. Le brouhaha s'éloignait. Le silence retombait sur la bergerie, traversé par les sifflements du vent dans la toiture et les craquements du vieux chêne des poutres. Les poursuivants rentraient peu à peu de leur harassante battue nocturne, accompagnés des chiens dont les halètements indiquaient l'état d'épuisement. Paul exploita un moment de tranquillité pour demander, d'une voix à peine audible, « Qu'est-ce que ça peut bien être leur foutue invention ?» Un grattement prolongé sur le bois de la porte lui répondit. Les deux flics n'eurent pas le temps de s'en inquiéter. Ahmed s'engouffra dans la bergerie, portant un sac plastique et une bouteille d'eau minérale. Il avait enfilé par-dessus une combinaison kaki, une veste de treillis aux multiples poches. La lumière du jour tirait de la pénombre son visage anguleux, son nez long aux narines légèrement retroussées, ses pommettes saillantes, ses joues creusées et rasées de frais, ses sourcils délicats, presque féminins. « Ça va ? Je vous ai amené de quoi boire et manger. Et aussi ça. » Il posa le sac plastique sur le sol et dégagea, d'une poche de son treillis, deux pistolets noirs et luisants. « Des Browning 9 mm. Les chargeurs sont pleins. 12 balles chacun. Pas de la dernière technologie, mais super fiable. Au moins, vous pourrez vous défendre au cas où. » Paul s'empara de l'un des deux pistolets et en vérifia le mécanisme. Satisfait, il farfouilla dans le sac plastique d'où il retira deux tranches de pain de campagne et un morceau de fromage. Ahmed l'observait avec une lueur d'amusement dans les yeux. « Il y a du nouveau. Un divisionnaire du quai des Orfèvres a déboulé ce matin avec deux filles, une noire et une blanche. À mon avis, elles vont passer un sale quart d'heure dans les griffes de Calixte. » « J'en ai eu un petit aperçu, » murmura Edmé. « Quel rapport entre Calixte et l'invention ?»« Elle est chargée d'éliminer les témoins qui pourraient devenir gênants. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé au développement de l'invention. Les cobayes principalement, recrutés dans les bas-fonds le plus souvent. Calixte et sa bande jouent les nettoyeurs et comme ils sont friands de souffrances humaines, ils mêlent les affaires et le plaisir. « Pourquoi tuer ces pauvres bougres ? Je ne vois pas en quoi ils pourraient être dangereux. » « Politique du risque zéro. On attire les cobayes en leur promettant 1 500 € en espèces pour une expérience de 4 jours. Puis on les livre à Calixte et à ses chiens quand on estime les avoir suffisamment exploités. En plus du forfait alloué par ses employeurs, Calixte récupère tout le fric qu'elle peut sur ses victimes. Du bon business, hein ? C'est de cette façon qu'elle a pu se payer cette propriété. « Et tu laisses faire depuis 10 ans ?» Le visage d'Ahmed se renfrogna. « Je suis en mission, mon vieux. Je suis pas là pour juger. » « Forcément un peu, puisque tu nous as délivrés. Vous, c'était différent, vous êtes de la maison. Il y a des limites à la raison d'État. J'y retourne avant qu'on remarque mon absence. Restez tranquillement planqués ici. Je viendrai vous chercher le moment venu. » Edmé et Paul mangèrent les tranches de pain et les morceaux de fromage après son départ. Il avait même ajouté 2 cigarettes et un briquet dans le fond du sac en plastique. « Tu vas tout de même pas te mettre à fumer maintenant, » gronda Paul après avoir vidé la bouteille d'eau sans même la proposer à son équipier. « Je vais me gêner. » répliqua Edmé. « Ça pue le clope, merde !»« Parle moins fort. Tu vas nous faire repérer plus sûrement que l'odeur de la cigarette. De toute façon, ils fument presque tous là-dedans. » Edmé plongea avec délectation l'extrémité de sa cigarette dans la flamme du briquet. L'âcre fumée lui arracha la gorge, mais il parvint à inhaler la première bouffée sans tousser. Sans doute une cigarette de contrebande importée des pays de l'Est ou d'Asie. La tête lui tourna comme s'il avait tiré sur un pétard. Il mit sa réaction sur le compte de la fatigue, du manque de sommeil ou des psychotropes ajoutés au tabac. Une rumeur enfla dehors. Il se demanda quelques secondes si elle était réelle ou le fruit de son imagination. « On vient par là !» souffla Paul en braquant son Browning sur la porte.